Okay, on va commencer notre 27e leçon dans notre série sur l'histoire de l'Église. Ce soir, on va voir la réforme en Allemagne. Donc, Martin Luther, qui a vécu entre 1483 et 1506, on va la faire en deux parties, parce qu'il y avait pas mal de matériel. Alors, la semaine dernière, on avait terminé Jérôme de Prague, et dans le manuel que j'utilise, il continuait un petit peu l'histoire. Ils appelaient les frères Moraves, mais je n'ai pas continué. On va tomber tout de suite dans la réforme. Alors, dans son précis d'histoire de l'Église, J.M. Nicol introduit la réforme de la manière suivante. Il dit « On considère souvent que le mécontentement provoqué par la corruption du clergé est la cause principale de la réforme. Assurément, malgré certaines exceptions louables, le bas clergé était en général grossier, ignorant, immoral, et le haut clergé se discréditait par son ambition, sa mondanité et son avarice. Une série sinistre de mauvais papes avait scandalisé la chrétienté. Cependant, tout cela n'aura pas été suffisant pour provoquer la réforme. C'est l'étude de la Bible qui apparaît comme la cause profonde de la réforme, avant d'en être le résultat. En face des exigences du Dieu saint de l'Écriture, beaucoup sentent qu'ils ne peuvent être sauvés par les maigres mérites que l'Église leur propose d'acquérir. La comparaison entre la vérité scripturaire et l'enseignement officiel précipite le mouvement. De plus, quelques circonstances favorables doivent être mentionnées. Les princes à peu près affranchis du joug papal, peuvent introduire des réformes religieuses dans leurs États. La renaissance littéraire, contre-coup inattendu de la prise de Constantinople par les Turcs en 1453, avait remis en l'honneur l'étude du grec. Érasme de Rotterdam, malgré sa timidité et son incompréhension pour les idées de Luther, avait fait œuvre de précurseur. De même, Jean Ruchlin a ouvert la voie à la connaissance de l'hébreu. Alors, c'est quand même des facteurs importants pour l'étude des Écritures qu'on se mette à s'intéresser davantage aux études des langues originales des Écritures. Bien entendu, l'invention de l'imprimerie en 1450 par Gutenberg à Mayence a permis la diffusion sur une grande échelle et à bas prix de la parole de Dieu et aussi des ouvrages des réformateurs. Enfin, il ne faut pas oublier que ceux-ci travaillaient sur le sol déjà labouré par leurs précurseurs, Jean Valdo, Wycliffe, Huss, Jérôme de Prague et bien d'autres, que partout en Europe, il y avait de petits groupes de croyants évangéliques et que le terrain était ainsi préparé pour un mouvement d'envergure mondiale. Alors, ce soir, ce qu'on va regarder, c'est la préparation à la lutte de Martin Luther. Il existe peu de récits aussi captivants que ceux qui constituent la plupart des biographies de Martin Luther. Il en est peu où il soit plus malaisé de séparer l'exacte vérité d'avec ce qui a été ajouté par l'imagination ou par le désir d'insérer la note pittoresque dans un exposé rendu austère par la nature même du sujet et complexe à cause de la psychologie très spéciale du grand réformateur. Alors, autrement dit, ce qu'il est en train de dire, c'est que les gens qui ont écrit sur Luther ou ils l'ont mis sur un piédestal en augmentant un petit peu ses qualités ou il est vu par ses ennemis. Et on écrit, alors ce que l'auteur est en train de dire, c'est que c'est difficile de faire la part des choses en regardant les écrits des gens qui ont écrit sur Luther, parce que c'est toujours un petit peu exagéré, un petit peu. Alors, la plupart des biographies, des biographes, ont trouvé commode de puiser dans ce qu'on a appelé les propos de table recueillis par les admirateurs de Luther après sa mort. Celui-ci avait l'habitude, surtout dans les dernières années de sa vie, de tenir table ouverte au grand désespoir de sa femme, la parcimonieuse Catherine de Bora. Alors imaginez quelqu'un qui fait des grands repas avec des 12 puis des 15 personnes. On imagine que sa femme peut avoir eu à un moment donné des moments où... Mais lui, Luther, il aimait ça, avoir des se tenir avec des gens à table. Comme ça. Alors c'était un grand causeur. Il prenait plaisir à diriger la conversation, qu'il agrémentait volontiers en comptant des souvenirs personnels emprunté essentiellement à ses années de jeunesse. Sans y mettre la moindre prétention historique, il se laissait aller en toute sincérité à enjoliver les anecdotes, y introduisant des détails romanesques ou passionnés, propres à captiver ses commensaux. Ceux-ci les écoutaient avec ferveur, les notaient en les embellissant à leur tour et finirent par les collectionner dans un recueil qu'on serait porté à considérer comme authentique, mais qui s'est mué en une sorte de biographie romancée. Dans ce qui va suivre, on se bornera à ce qui paraît historiquement exact et à expliquer par des faits la remarquable évolution de cet homme sorti des profondes ténèbres de l'erreur pour devenir non seulement un monument de la grâce de Dieu, mais aussi dans sa main un instrument puissant en vue de l'anéantissement des doctrines les plus fausses accumulées au cours des siècles. Alors, il était né à Eisleben, en Saxe, le 10 novembre 1483, dans une famille de mineurs, qui se fixa plus tard à Mansfield. Martin Luther vécut, semble-t-il, une enfance assez dure. Son père dut arriver pourtant à une certaine aisance, puisque... Ayant remarqué les brillantes qualités intellectuelles de son fils, il put l'envoyer, quand il eut 14 ans, à Magdebourg afin d'y parfaire ses études. Il les poursuivit à l'université d'Erfurt, dans la faculté de droit, où il trouva une bibliothèque bien fournie. Mais il avait 20 ans déjà quand il mit la main sur la Bible, qu'il n'avait jamais vue. Il la parcourut avec curiosité, avec intérêt même, mais sans pour l'instant en assimiler le contenu. Elle parlait à son intelligence, non à son cœur. Petit à petit, cependant, il mit plus de sérieux à sa lecture, si bien que dès le jour où il coiffa le bonnet de docteur, il se demanda s'il avait raison d'embrasser la carrière juridique, selon le vœu de sa famille, puisqu'elle ne lui permettait pas de concentrer toutes ses pensées uniquement sur les choses de Dieu. En proie à ses scrupules, profondément tourmenté dans son âme par le sentiment de ses péchés, il résolut brusquement d'entrer dans un couvent d'Augustins, où, espérait-il, il rencontrerait la réponse à toutes les questions qui se posaient à lui, cela malgré l'opposition de son père, qui lui rappela que, selon l'Écriture sainte elle-même, les enfants doivent obéissance à leurs parents. Dans la décision de Luther, il y eut une direction providentielle. À côté de l'étude des œuvres du patron de l'ordre, dont on connaît la piété éclairée, on recommandait aux moines la lecture de l'Écriture sainte. Le jeune homme croyait pouvoir trouver au couvent l'exemple d'une vie sainte, et cette paix de l'âme qu'il recherchait avec tant de zèle. Mais au lieu de mœurs pures, il eut sous les yeux le spectacle de désordre de toute espèce. L'ardeur de son tempérament le porta à s'appliquer à la lettre, à exagérer même les duretés du régime imposé aux novices. Harcelé par la crainte d'avoir à paraître devant Dieu, alors qu'il s'en savait incapable par lui-même à cause de son état de péché, il se serait volontiers écrié comme l'apôtre, « Misérable homme que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? » Romains 7, 24. Il avait cependant la ferme conviction que ses mortifications constitueraient un grand mérite aux yeux de Dieu et que ce serait autant de gagner par lui pour le ciel. Mais cela ne comblait pas l'abîme ouvert dans son cœur. Il en fit plus tard l'aveu en ces termes. J'ai été moine pendant près de 20 ans. Je me suis tourmenté de toutes manières. J'ai prié, j'ai jeûné, j'ai veillé, j'ai souffert le froid jusqu'à me faire mourir. Et dans toutes ces choses, que cherchais-je si ce n'est Dieu qui devait regarder à l'austérité de ma vie et à ma fidélité à observer les règles de mon ordre? Ainsi, je vivais dans l'idolâtrie, abusé par des rêveries humaines, car je ne croyais pas en Christ. Je le craignais comme un juge sombre et terrible. Aussi, je me mis en quête d'autres intercesseurs. C'était Marie, c'était les saints, c'était mes bonnes œuvres et les mérites de l'ordre. Je me croyais irrévocablement perdu chaque fois qu'il s'élevait dans mon âme un désir impur, un mouvement de colère ou de haine. Il n'y avait rien que je ne fisse pour me délivrer de mes angoisses. Je me confessais tous les jours, mais les mêmes tentations se reproduisaient sans cesse. Pour comble de maux, les supérieurs du couvent lui enlevèrent sa Bible et lui recommandèrent la lecture de certains docteurs qui, bien loin de remplacer le livre de Dieu, ne firent qu'accroître ses perplexités et ses angoisses. C'est pourtant dans ce couvent même, au sein de cette organisation où tout semblait l'éloigner de la vérité, que le Seigneur lui ouvrit les yeux. Stott Pitz, vicaire général de l'Ordre des Augustins, frappé de l'air défait de son jeune subordonné, dont il connaissait par ailleurs les mérites remarquables de la piété sincère, lui dit un jour: « Pourquoi, mon frère, t'affliger de ces spéculations et de ces pensées trop hautes? Regarde au côté percé du Seigneur Jésus sur la croix, au sang qu'il a répandu pour toi. C'est là que tu rencontreras la miséricorde de Dieu. Au lieu de te tourmenter à la pensée des fautes que tu as commises, jette-toi dans les bras du Rédempteur. Mets ta confiance en lui, en sa justice, en son sacrifice expiatoire, consommé par sa mort à la croix. Ne le fuis pas. Dieu n'est pas contre toi, c'est toi qui t'éloignes de lui. Prête l'oreille au Fils de Dieu. Il descendit ici-bas, sous la forme d'un homme, afin de t'assurer de la faveur divine. Il te dit: mes brebis écoutent ma voix, et moi je les connais, et personne ne les ravira de ma main. » Jean 10, versets 27 et 28. Et le pieux vicaire ajoutait: « Mon ami, j'ai juré plus d'une fois au Dieu saint de vivre pieusement, mais je n'ai pas pu tenir mes serments. Aujourd'hui, je suis décidé à ne plus faire une promesse semblable, car je sais que je ne la tiendrai pas. Si Dieu refuse de me faire grâce pour l'amour de Jésus-Christ, je ne pourrai subsister devant lui. Malgré mes bonnes œuvres, je périrai. Regarde au sang que Jésus a versé pour toi, c'est là que tu trouveras la grâce de Dieu. Au lieu de te martyriser pour expier tes péchés, confie-toi en lui, accepte pour toi-même le sacrifice qu'il a accompli sur la croix. » Mais Luther persistait à chercher en lui-même la base de la repentance qu'il savait nécessaire à son salut et répondait aux arguments de son bienveillant interlocuteur ainsi que le font tant de personnes timides. « Comment puis-je croire à la faveur de Dieu aussi longtemps que je ne suis pas vraiment converti? Un changement doit s'opérer en moi afin qu'il puisse me recevoir. » Stott Pitz montra à Luther que le Seigneur, loin de l'avoir abandonné, le faisait passer par ce chemin de souffrance morale pour se révéler à lui comme un bon et tendre père qui ne veut pas la mort du pécheur, mais sa conversion et sa vie. D'autre part, un moine âgé lui rendit visite dans sa cellule, et alors que Luther lui parlait de ses doutes, de ses craintes, son confrère lui fit remarquer que la confession des péchés, si souvent répétée dans les offices, contient cette phrase: « Je crois à la rémission des péchés. » Luther l'avait articulé bien des fois, mais sans jamais se l'appliquer à lui-même. Soudain, la lumière se fit dans son cœur et il s'écria: « J'y crois. » Là-dessus, le vieillard répondit: « Dans ce cas, mon frère, rappelle-toi que selon la voie divine, tes propres péchés sont pardonnés si tu mets ta confiance dans le sacrifice de Christ. » Le noviciat terminé, Luther reçut la prêtrise, mais sa haute culture théologique et philosophique, ses dons intellectuels extraordinaires, son éloquence attirèrent l'attention sur lui. Il n'avait pas 25 ans quand l'université de Wittenberg l'appela à occuper la chaire de professeur de philosophie. Il n'en continuait pas moins à se rattacher à l'ordre des Augustins et habitait toujours le couvent. Une partie de son enseignement consistait à commenter les Saintes Écritures et c'est ainsi qu'il donna un cours sur les psaumes, puis entama une étude sur l'Épître aux Romains. Or, un jour, dans l'isolement de sa cellule, il méditait sur la leçon qu'il allait donner. Ses yeux tombèrent sur sa Bible ouverte devant lui et il y lut ces mots de Romains 1, 17. Le juste vivra par la foi. Son âme en fut illuminée. Il existe donc pour le juste une vie différente de celle que possède le reste des hommes. Cette vie est produite par la foi, reconnaissance par le pécheur de la justice de Dieu, mais aussi du moyen donné par Dieu pour que ce juste puisse se tenir devant lui sans conscience de péché. L'enseignement de Luther en fut transformé. Jusque-là, on avait admiré en lui le professeur éloquent, le savant. Mais maintenant, c'est un chrétien que les étudiants avaient devant eux, un chrétien éprouvé par la révélation qu'il avait reçue des vérités fondamentales du christianisme et dont toute la science dérivait dorénavant de la Bible, tandis que jusque-là, c'était la scolastique desséchante qui en faisait les frais. Ce trésor, il le tirait du tréfonds de son cœur. Ayant obtenu le grade de licencié en théologie, il dut prêter, entre autres, le serment suivant. « Je jure de défendre de toutes mes forces la vérité de l'Évangile. » Cette promesse, il l'a tenue toute sa vie durant, non certes dans l'esprit de ceux qui lui avaient imposé, mais selon la volonté de Dieu. Son enseignement reposait sur la Bible seule, de même que sa prédication. Il étudiait avec ferveur les Écritures, les annonçait en toute pureté et défendait l'intégrité absolue contre l'opposition d'où qu'elle vint. Il rendit ainsi à la parole de vérité la place dont l'avait privée l'Église romaine. Il en condamna avec la dernière rigueur l'adultération, ce mal qui n'est que grossièrement matériel, on ne l'aperçoit pas, on ne s'en émeut point. On n'en sent point l'effroi. Ces paroles ont toute leur valeur aujourd'hui. Et voici encore en quels termes il recommandait plus tard la prédication de la parole de Dieu. Ce n'est pas nous qui devons travailler, mais c'est le Seigneur par sa parole. Les cœurs des hommes sont dans sa main, comme est l'argile dans la main du potier. Jérémie 18, verset 6. Nous avons le droit de parler, mais non celui de contraindre. Prêchons. Le reste appartient à Dieu. Que gagnerais-je si je recours à la force? Des grimaces, une belle apparence, des singeries, l'uniformité figée, l'hypocrisie? Mais il n'y aura ni sincérité, ni foi, ni amour. Tout manque lorsque ces qualités font défaut. Je ne donnerai pas un sou pour remporter une victoire pareille. Notre premier but doit être de gagner le cœur. Voilà pourquoi nous devons prêcher l'Évangile. Si nous le faisons, nous verrons que la parole divine produit son effet un jour puis le lendemain. Et ainsi, petit à petit, les auditeurs abandonneront leurs anciennes pratiques et apprendront à suivre le chemin du Seigneur. Dieu produit par le moyen de sa parole des résultats infiniment plus grands que vous et moi et le monde entier si nous concertions nos efforts. Dieu saisit le cœur, voilà la vraie et seule victoire. Mais Luther savait aussi la nécessité d'étudier la Bible sous la direction du Saint-Esprit et avec le secours du Seigneur. Il ressort à l'évidence, écrit-il à un ami, que nous ne saurions comprendre les Saintes Écritures par nos propres moyens, ni par la puissance de notre intelligence. Notre devoir élémentaire est de commencer par la prière. Demandez instamment au Seigneur qu'il vous accorde dans sa riche grâce de bien saisir la portée de ce qu'il vous révèle. Nul autre ne peut interpréter la parole divine, sinon celui qui en est l'auteur. Selon qu'il est écrit, ils seront tous enseignés de Dieu. Jean 6, 45. N'espérez rien obtenir par vos études personnelles, livrées à vous-même, ni par votre propre intelligence, si vaste soit-elle. Mettez votre confiance en Dieu et dans les directions de son esprit. Croyez-en un homme qui a mis cette méthode à l'épreuve. Des différends ayant surgi entre l'ordre des Augustins et le Saint-Siège, Luther fut délégué à Rome dans le but de les aplanir. On a fortement exagéré l'influence de ce voyage sur son évolution spirituelle. Il ne manqua pas sans doute d'être douloureusement frappé, comme on l'est encore maintenant, du spectacle des pratiques purement païennes, des superstitions grossières qui s'y étalent dans toute leur laideur, sans compter tous les autres désordres dont la ville était le théâtre. On ne doit pas oublier qu'à ce moment-là, Luther était encore catholique professant, mais que sa conversion avait déjà eu lieu. Ce qu'il retira de son séjour à Rome, c'est la conviction qu'une réforme complète de l'Église était indispensable. Il y puisa aussi nombre d'expériences qui lui furent les plus utiles dans la suite. C'était le moment où la vente des indulgences se pratiquait en Allemagne. Luther ne pouvait que s'opposer de toute son énergie à un commerce pareillement néfaste, surtout parce qu'il battait en brèche la doctrine de la justification par la foi. Tetzel, qui dirigeait l'affaire, trouva chez le vaillant Augustin un adversaire acharné et redoutable. Mais la chose elle-même n'était pas nouvelle. En 1482, déjà la Sorbonne passa condamnation sur la proposition suivante qu'on lui avait soumise. Tout homme est immédiatement délivré du purgatoire dès l'instant qu'un membre de sa famille dépose dans le tronc une pièce d'argent en vue des réparations à effectuer à l'église de Saint-Pierre. Voyez-vous, même l'Université de Paris avait déjà dit que ça tenait pas de bout. Alors la Sorbonne voyait plus clair que les papes du 16e siècle. Mais en Allemagne, le mal s'installait, pour ainsi dire, officiellement. À côté de l'hérésie abominable ainsi proclamée, le trafic des indulgences représentait un vrai danger public en ce qu'il annulait les vertus morales et consacrait positivement le crime. On vit tel individu en acheter une, fort coûteuse, il est vrai, pour se voir absous d'avance de l'assassinat de son père. Imaginez-vous, t'achetais des indulgences pour pouvoir assassiner ton père dans le futur. C'est fort. Alors, toute sécurité disparaissait, la protection des lois n'était plus qu'une affirmation sans portée. Après avoir prêché avec une rare éloquence contre les indulgences, Luther résolut, selon l'habitude courante, de provoquer Tetzel à un débat public sur la question. Dans ce but, il afficha à la porte de la cathédrale de Wittenberg 95 thèses qui résumaient l'enseignement de la Bible à ce sujet et, appuyées sur la même autorité, condamnaient impitoyablement l'odieux trafic. Donc, ça, c'était le 31 octobre 1517. Alors, bien sûr, il y en a 95, on ne les lira pas les 95, on a retenu uniquement celles qui étaient peut-être les plus importantes, la numéro 1, que notre Maître et Seigneur Jésus-Christ dit, « Quand notre Maître, repentez-vous, il entend que la vie tout entière de ses fidèles serviteurs sur la terre soit marquée par un esprit continuel de repentance. » La sixième, « Le pape ne peut absoudre d'aucune condamnation, il ne peut que confirmer la rémission accordée par Dieu lui-même. S'il agit autrement, la condamnation n'en déploie pas moins ses effets. » La 21e, les commissaires des indulgences sont dans l'erreur lorsqu'ils affirment que l'homme est sauvé par l'indulgence pontificale et est libéré de tout châtiment. La 36e, tout chrétien qui éprouve une vraie repentance à l'égard des péchés qu'il a commis en obtient la rémission sans le secours des indulgences. La 43e, celui qui donne aux pauvres ou prête aux nécessiteux fait là une œuvre plus méritoire que celui qui achète une indulgence. La 46e, quiconque n'a pas de superflu, est tenu d'employer ce qu'il a pour procurer la nécessité aux siens. Il ne doit pas gaspiller ce qu'il possède pour acheter des indulgences. La 62e, le vrai trésor de l'Église, sont bien le plus précieux c'est l'évangile de la gloire et de la grâce de Dieu. Le 79e, c'est un blasphème de dire que la croix aux armes pontificales a autant de puissance que la croix de Christ. Aucun champion catholique n'osa se présenter pour discuter les thèses, encore moins pour les réfuter. En revanche, elles se répandirent avec une rapidité extraordinaire. Au bout de 15 jours, écrit un historien, toute l'Allemagne les connaissait. Au bout d'un mois, on lisait dans toute la chrétienté comme si les anges eux-mêmes en avaient été les porteurs. On a à peine à se représenter l'agitation qu'elles suscitèrent. On les traduit en hollandais et en espagnol. Un voyageur, dit-on, les mit même en vente à Jérusalem. Les pèlerins qui affluèrent à Wittenberg pour la Toussaint contribuèrent pour une large part à cette extraordinaire diffusion. L'archevêque de Mayence, ayant donné la sanction ecclésiastique au trafic honteux des indulgences, Luther lui écrivit « Nul ne saurait être sauvé par son évêque. C'est à peine si le juste est sauvé et le chemin qui conduit à la vérité est étroit. Pourquoi donc les vendeurs d'indulgences bercent-ils le peuple d'une sécurité charnelle? Le devoir des évêques n'est-il pas de prêcher l'Évangile et de parler à leurs auditeurs de l'amour du Sauveur? Jamais le Seigneur n'a enseigné qu'il fallait prêcher les indulgences. Il nous a enjoint d'annoncer l'Évangile seul. Combien donc ces choses dangereuses et répréhensibles de la part d'un évêque s'il autorise à masquer l'Évangile et à ne parler au peuple que d'indulgences qu'il faut acheter à prix d'argent? Je supplie votre grandeur, au nom du Seigneur Jésus-Christ, d'étudier à fond cette question et de donner les ordres nécessaires pour que le peuple apprenne la vérité. Si votre grandeur néglige ce devoir, elle sera un jour confondue par d'autres voix qui réfuteront catégoriquement ceux qui prêchent ces fausses doctrines. » L'archevêque ne daigna pas répondre à cette adjuration solennelle. Le Seigneur protégeait de façon remarquable son témoin fidèle. Luther avait de nombreux partisans et quelques amis fidèles et dévoués. Mais jusqu'ici, ils ne pouvaient compter que sur leur appui moral. Quand il s'agissait de lutter, ils demeuraient seuls sur la brèche où ils déployaient une énergie indomptable, à tel point que très peu de champions catholiques osaient se mesurer avec lui. C'est presque seul aussi qu'il avait traversé les années sombres du couvent d'Erfurt. Mais maintenant qu'il avait saisi le salut en Christ, aucune puissance humaine n'ait pu le faire rétrograder. « Ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, écrit-il, sont souples d'intelligence et de raisonnement et menés miraculeusement par la main du Seigneur là où justement ils ne veulent pas aller. Cependant, le combat ne faisait que commencer. Satan était à l'œuvre et fourbissait ses armes. Au sein de l'ordre des Augustins, Luther ne rencontrait que peu d'appui qu'il avait escompté. On redoutait le ressentiment de Tetzel et le discrédit qui en résulterait. Nombre des amis du réformateur ne le soutenaient que mollement, si grande était leur incertitude quant à l'issue des événements. Luther avait espéré voir relever le gant par de hauts dignitaires de l'Église, par d'illustres philosophes qui, il le souhaitait, se rangerait à ses côtés. Mais le Seigneur dirigea les circonstances tout autrement. Du nouveau, l'isolement complet. À distance, on lui prodiguait généreusement marques de sympathie et paroles d'encouragement, mais là s'arrêtait le secours humain. Aussi, son bel enthousiasme fit place à une déception amère, suivie d'un profond découragement. Il tremblait à la pensée d'avoir contre lui toute l'Église à laquelle il se rattachait encore. Cet état d'esprit se retrouve tout au long de la carrière de Luther. De nature impulsive, doué d'une foi robuste, d'une confiance illimitée dans la sagesse de Dieu, il ne connaît pas l'obstacle, ne songe pas à le prévoir. Rien ne l'arrête. Il fonce sur l'ennemi, tête baissée, croyant impossible que le Seigneur ne le fasse arriver à ses fins. Certes, il demande moins à conduire les autres qu'à être conduit lui-même par la main de Dieu. Mais quand le chemin s'obstrue, il semble croire que tout est perdu. En fait, Luther est avant tout un démolisseur. Il n'a ni trêve ni repos qu'il ne voit le sol jonché de ruines, bien sûr de ruines des choses fausses. Dans son infinie sagesse, le Seigneur plaça à ses côtés dans la personne de Philip Melanchthon, un collaborateur d'une valeur inappréciable. De bonne heure, ces deux amis, sentant combien ils avaient besoin l'un de l'autre, se lièrent très étroitement. Ce qui faisait dire à Melanchthon, « S'il est un homme que j'aime et que j'embrasse de tout mon cœur, c'est Martin Luther. » Melanchthon possédait les plus belles qualités de l'esprit, doué d'une intelligence vive, d'une remarquable facilité de compréhension, il savait admirablement communiquer à autrui les choses qu'il savait. Surtout, il était de cet esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. On peut lire dans 1 Pierre 3, verset 4. Et ainsi, il gagnait tous les cœurs. Cela ne l'empêchait nullement de jouir d'une grande autorité. Il l'emportait sur tous par la profondeur de ses connaissances, mais la parole de Dieu était son étude préférée. Dès sa jeunesse, il lui consacra une attention diligente. Il rejetait tous les raisonnements humains à son sujet et s'en tenait littéralement aux déclarations de la Bible dont il portait toujours un exemplaire sur lui. C'est ainsi que les deux réformateurs se complétaient. Luther donnant à Melanchthon quelque chose de son énergie débordante et celui-ci contribuant à calmer la fougue de son ami. Luther caractérisa leur collaboration en ces termes pittoresques. « Ma tâche est d'extirper troncs et souches, d'abattre haies et épines, de combler les fossés. Je suis le rude défricheur qui ouvre et dresse la voie. Maître Philippe vient après moi. Il accomplit en silence son œuvre bien nette. Il laboure, il plante, il sème, il arrose avec amour selon les riches dons que Dieu lui a faits. On note ici que Melanchthon fut le premier à établir la différence essentielle qu'il y a entre la connaissance historique du Christ, connaissance qui ne sauve pas, et la confiance en la promesse divine. Tetzel finit par relever le gant qu'on lui avait jeté. N'osant toutefois pas rencontrer en face son redoutable contradicteur, il fit rédiger par ses amis une série de thèses réfutant celles de Luther. Et il les soutint devant 300 membres du clergé réunis à Francfort-sur-l'Oder. Comme il s'était bien gardé de convoquer les réformateurs, il remporta une facile victoire qui tourna cependant sa confusion. Le peuple allemand, dans son ensemble, voyait plus clair que les ecclésiastiques. Las d'être pressuré par eux, cette tentative de lui extorquer de l'argent par les fausses promesses des indulgences finit par lui inspirer un violent dégoût, surtout parmi la jeunesse universitaire. Les étudiants de Wittenberg réunirent tous les exemplaires des thèses de Tetzel qui réussirent à trouver et les brûlèrent publiquement. Jusqu'ici, le pape Léon X s'était tenu en dehors du conflit. « Simple querelle de moines », disait-il, faisant allusion aux rivalités séculaires entre les Augustins et les Dominicains, ordre auquel appartenait Tetzel. En tant qu'homme d'une haute culture et ami des arts et des lettres, il désirait vivre en paix, mais s'intéressait toutefois aux idées nouvelles énoncées par Luther, pourvu qu'on les lui présentât sous une forme agréable et spirituelle. De Luther, il parlait avec estime, à cause des qualités intellectuelles hors pair qu'il lui reconnaissait. Mais la hardiesse toujours croissante des réformateurs finit par alarmer Léon X et plus encore ses agents. Il tremblait à la nouvelle des mouvements qui se propageaient partout. Il faut dire que les adversaires de la vérité en Allemagne semblaient prendre à tâche de rendre leur position toujours plus précaire, tant par leur violence que par la faiblesse de leur riposte. Le pape céda enfin aux instances de son entourage et cita Luther à comparaître devant lui dans un délai de 60 jours. Qu'allait faire le réformateur? Obéir à cette injonction? c'était courir à la mort, s'exposer au même sort que Jean Hus, que Savonarole et tant d'autres qui périrent sous les coups de la papauté. Le Seigneur ne le permit pas. Il prépara à Luther un protecteur puissant, l'électeur Frédéric de Saxe. Ce prince, quoique effrayé de l'audace de son ami, appréciait fort sa franchise, sa soumission aux Écritures. Bien qu'il n'eût pas attaqué lui-même les abus, il vit avec plaisir qu'un autre s'en chargeait. Il se déclara dès l'abord pour Luther et obtint que celui-ci fût examiné et jugé en Allemagne. Toutefois, Luther avait trop confiance dans le Seigneur et dans la bonté de sa cause pour ne repousser toute intervention de ce prince en faveur de la vérité. « Je ne veux pas, disait-il, que dans cette affaire, notre électeur, qui est innocent dans tout cela, fasse la moindre chose pour défendre mes propositions. Qu'il tienne la main à ce que je ne sois pas exposé à aucune violence, s'il le peut, sans compromettre ses intérêts. S'il ne le peut pas, j'accepte mon péril tout entier. » Cette fermeté de Luther encourageait ses nombreux amis. Il donnait par là un vivant exemple de sa confiance absolue dans les soins du Seigneur à son égard. « L'Éternel est pour moi, je ne craindrai pas. Que me fera l'homme ?» comme on peut le lire dans le psaume 118, verset 6. Changeant donc de tactique, Léon X invita le cardinal Cajetan, son légat, à la diète allemande. La diète allemande, c'était le gouvernement de l'Allemagne. On appelle ça la diète. La diète allemande, d'instruire l'affaire et de la traiter en Allemagne. Luther reçut l'ordre de se rendre à Augsbourg. Il répondit immédiatement à cet appel. Par bonheur, ses amis montrèrent plus de prudence que lui et il lui fit dire de ne pas comparaître devant le cardinal avant d'avoir reçu un sauve-conduit dûment signé de l'empereur. Cette pièce se fit attendre quelques jours, pendant lesquels Cajetan chercha à circonvenir le réformateur par diverses prévenances. Il envoya aussi auprès de lui plusieurs de ses partisans qui devaient préparer le terrain, soit en ébranlant Luther par la crainte, soit en tâchant de le gagner par des flatteries. Il s'agissait finalement de bien peu de choses, lui disait-il. Il n'a qu'à rétracter ses erreurs, l'affaire d'un mot latin de silette, révoco, qui veut dire « je me rétracte ». Alors, il dit « c'est pas grave, t'as juste à dire « je me rétracte » puis tout est fini ». Mais Luther demeura inébranlable. Enfin, la pièce attendue arriva. Il ne faudrait pas croire qu'en l'acceptant, Luther chercha à s'appuyer sur le bras de la chair. Il voyait simplement son devoir d'obéir aux avis que lui avaient donnés ses amis les mieux intentionnés et même les plus pieux. Le Seigneur tenait sa cause en main. S'il lui demandait sa vie, il la donnerait joyeusement. En présence du légat, Luther revendiqua nettement pour lui-même la paternité des thèses de Wittenberg. Il en encourut l'entière responsabilité, autant qu'il était disposé à recevoir instruction si on le convainquait d'erreur. Là-dessus, le cardinal résolu à assumer le rôle d'un père bienveillant vis-à-vis d'un fils rebelle, répondit d'un ton tout à fait conciliant, louant même l'humilité de Luther en exprimant sa joie. Puis il insista auprès de lui pour qu'il reconnût ses fautes, retira ses propositions et s'abstint désormais de propager ses opinions. Luther ayant demandé sur quel point il devait se rétracter, le légat mentionna la question des indulgences et l'affirmation du réformateur que le salut dépend de la pure grâce de Dieu. Luther ne se refusa point à recevoir de nouveaux enseignements sur les indulgences, sans, bien entendu, s'engager à les accepter. Quant à l'autre point, il déclara qu'il la maintiendrait jusqu'à la mort, s'il le fallait, puisque le nier, ce serait nier toute l'œuvre rédemptrice de Christ. C'est en vain que Cajetan recourut à tous les moyens pour obtenir de Luther l'aveu qu'il souhaitait de lui extorquer. Prières et menaces demeurèrent également inutiles et de même les jours suivants. Luther maintient sa position du début. « Je ne suis qu'un homme, disait-il, et par conséquent, sujet à me tromper. J'ai déjà formulé mon désir de recevoir les instructions et les redressements nécessaires sur les erreurs que je puis avoir commises. Je ferai tout ce que l'on peut exiger d'un chrétien, mais je proteste de toutes mes forces contre la méthode suivie dans cette affaire et contre la prétention qu'on énonce de me contraindre à rétracter sans m'avoir convaincu de mes fautes. En fait, le débat roulait essentiellement sur cette affirmation de Luther que c'est la foi seule qui sauve. La foi du juste le justifie et lui donne la vie de Dieu. Il appuyait son assertion sur de nombreux passages de la Bible dont le légat osa prétendre que la plupart n'avaient rien à voir dans la discussion. C'était ceux-là surtout qu'il condamnait. Poussé à bout, Cajetan s'écria « Rétracte ou bien retire-toi définitivement ». Luther obéit respectueusement à cette injonction. Les deux adversaires ne devaient plus jamais se revoir. Pris dans ses propres filets, Cajetan en conçut un violent dépit. « Cet homme, dit-il, a des yeux profonds et de singulières spéculations dans la tête. Je ne veux plus discuter avec une brute pareille. Son regard perçant en dit trop long sur son caractère malin. » Pendant cette lutte inégale, le bruit se répandit que le cardinal allait recourir à un procédé favori de Rome. Faire jeter en prison Luther et son ami Stottpitz, supérieur des Augustins, cela malgré le sauve-conduit. Un sénateur d'Augsbourg prit les mesures pour sauver le vaillant champion de la vérité. Un soir, vers minuit, un pauvre cavalier, mal monté, n'ayant ni épée ni éperon, sortait de la ville par une porte dérobée, accompagné d'un vieux postillon. C'était Luther sur lequel le Sénat veillait. Il arriva, harassé de fatigue, à Wittenberg. Fort irrité de ce que sa proie lui avait échappé, le cardinal somma l'électeur d'envoyer Luther à Rome ou de le bannir de ses états. Le prince remit au réformateur la pièce qu'il venait de recevoir et repoussa le rôle honteux qu'on voulait lui faire jouer. Dans une lettre humble mais ferme adressée au légat, Luther exposa toute sa conduite, l'impossibilité d'une rétractation, puis tout ce qui faisait la base de sa foi. « Je m'abandonne, écrit-il, à la miséricordieuse volonté du Seigneur, en quelque sorte qu'il dispose de moi, et je lui rends grâce de ce qu'il me juge digne, un pauvre pécheur tel que moi, de souffrir dans une aussi bonne et sainte cause. » Luther jugea opportun d'écrire directement à Léon X, lui disant entre autres son désir d'en appeler du pape mal informé pour l'informer mieux. Cette missive, rédigée avec la plus grande et la plus parfaite déférence, ne reçut pas même de réponse. Là-dessus, Luther en rédigea une seconde, dans laquelle il en appelait cette fois au pape pour un concile, coup droit porté à l'autorité pontificale, attendu qu'une bulle de Pie II avait décrété l'excommunication majeure contre quiconque, fût-ce l'empereur en personne, se permettrait de mettre en doute la suprématie du pape. Alors, vouloir passer par le pape et vouloir avoir pour ça, le pape, ça ne le prenait pas, là. Autrement dit, c'est à vouloir passer par-dessus son autorité. Mais Léon X préférait la diplomatie aux moyens violents et résolut de faire une nouvelle tentative auprès de Luther en recourant à l'intermédiaire du chambellan Miltitz, homme rusé, habile et porteur de magnifiques présents. Encore cette fois, vaine intervention. Miltitz fit alors citer devant lui Tetzel et lui reprocha amèrement la manière dont il s'acquittait de sa mission. Le malheureux vendeur d'indulgence en fut si affecté qu'il tomba malade. Luther essaya de le consoler en cherchant à tourner ses regards vers le Seigneur, mais sans succès. Peu après, Tetzel mourut de chagrin. Le docteur Eck, E.C.K., autrefois collègue et ami de Luther, s'était fait un renom par l'âpreté qu'il mettait à combattre la doctrine évangélique. On le connaissait comme remarquablement doué pour la discussion à laquelle il apportait une ardeur belliqueuse et une habileté digne d'une meilleure cause. À maintes reprises, il avait participé à cette dispute si goûtée alors. Toujours, il avait eu les déçus. Il publia 12 thèses destinées à réfuter celles de Wittenberg. Or, la 12e proposition était rédigée de telle façon qu'elle attaquait personnellement Luther dans l'opposition qu'il faisait à la doctrine pontificale. En effet, s'appuyant sur les meilleurs textes historiques, Luther avait démontré que dans les premiers temps de l'Église, l'évêque de Rome n'avait jamais songé à régner sur toute la chrétienté. Si donc il y prétendait maintenant, c'était pure usurpation de sa part. Malgré les conseils de ses amis, qui redoutaient les savants sophismes du docteur Eck, Luther résolut de lui tenir tête, bien que la nature même du débat causa à ses partisans les plus vives appréhensions. Mais le duc Georges de Saxe, qu'il ne faut pas confondre avec l'électeur, grand zélateur du catholicisme, provoqua le débat en adressant d'amères reproches à ceux qui cherchaient à l'éviter, entre autres à l'évêque de Merseburg, sur le territoire duquel se trouvait Leipzig, où les adversaires devaient se rencontrer. Or, l'évêque n'avait pas commis d'autre offense que celle de déclarer qu'il estimait la dispute parfaitement oiseuse. Une foule nombreuse assista au débat. Nobles, savants, professeurs. Il dura une semaine environ. Luther fit preuve d'une connaissance extraordinaire de la Bible dans laquelle Eck se montrait tout à fait inférieur, puis aussi d'une documentation historique telle que plusieurs fois il confondit son adversaire par des arguments tirés des pères de l'Église les plus réputés. Il démontra par les Écritures que l'Église n'a qu'un chef qui est le Christ, citant entre autres le psaume 110, verset 1, « L'Éternel a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je mette tes ennemis pour le marchepied de tes pieds. » Eck crut le confondre en le traitant de hussite, de bohème, d'hérétique, à quoi Luther répondit sans hésiter que malgré les affirmations de Hust, il en était plusieurs tout à fait conformes aux enseignements de la parole de Dieu. Celle-ci, entre autres, il n'est pas nécessaire pour le salut de croire l'Église romaine supérieure aux autres. Peu m'importe, ajouta-t-il, que cette parole soit de Hust ou de Wycliffe, c'est la vérité. Il ne m'en faut pas davantage. Et il résuma en ces termes la position qu'il prenait. Le docteur Eck évite les Écritures tout autant que le diable s'enfuit dès qu'il voit la croix. Pour ce qui me concerne, tout en protestant de mon respect à l'égard des pères de l'Église, pour autant qu'ils sont dans la vérité, je mets infiniment au-dessus d'eux la parole de Dieu. C'est sur ce point que j'attire instamment l'attention de ceux qui nous écoutent. Comme enfin, au sujet de Hus, Eck lui opposait les décisions du Concile de Constance, Luther déclara sans embâge que n'importe quel concile peut se tromper, que seule la Bible est infaillible. Eck visait à provoquer de la part de son antagoniste des affirmations de cette nature. Il y réussit, et la dispute de Leipzig eut ainsi pour Luther cet avantage inappréciable, de l'amener à prendre nettement position vis-à-vis de différents points sur lesquels il ne s'était pas encore prononcé. Il apparut donc à Leipzig plus qu'il ne l'avait jamais été comme le champion indéfectible de la vérité. C'est ainsi que du mal que les hommes cherchent à perpétrer, le Seigneur sait tirer du bien. Pourvu que ceux qui sont sur la brèche s'attendent entièrement à lui, leur dépendance à l'égard de sa volonté tournera sa gloire. Dans des lettres privées du docteur Eck, qui ont été conservées, celui-ci avoue que sur nombre de questions, il subit une défaite complète qu'il s'efforce d'expliquer par les motifs qu'on devine. Dans le monde théologique de Leipzig, on proclama la victoire pleine et entière du champion catholique. À cette assertion, on opposera l'opinion d'un témoin modeste et impartial, Mosellanus, qui s'exprime en ces termes. À entendre ceux qui ne comprennent rien au sujet des discussions, Eck remporta un triomphe éclatant. mais aux yeux des gens instruits et intelligents, c'est Luther qui resta maître du champ de bataille. Un fait demeure, sans entrer le moins du monde dans les innombrables arguties théologiques alléguées au cours de la dispute, la cause de la vérité s'impose par sa simplicité même. Ce qui le prouve, entre autres, c'est la renommée désormais acquise par l'université de Wittenberg, où Luther professait toujours. On voyait jusqu'à 400 étudiants à la fois suivre ses cours, à tel point qu'ils avaient grand-peine à se loger dans la ville. Cette extraordinaire puissance d'attraction ne suffit-il pas à démontrer la valeur du message que proclamait le réformateur? Ce message se répandit rapidement hors d'Allemagne. Froben, le célèbre imprimeur balois, éditait les œuvres de Luther. Elles s'écoulèrent aussitôt parues. 600 exemplaires pénétrèrent en France. On les accueillit avec transport en Angleterre. Des négociants espagnols les traduisirent en leur langue et les expédièrent d'Anvers dans leur patrie. Calvi, un savant libraire de Paris, en introduisit un gros ballot en Italie. Et Froben décrire à ce propos à Luther, « J'ai vendu à 10 exemplaires près. Jamais spéculation éditoriale ne m'a aussi bien réussi. » À quoi le réformateur lui répondit, « Je me réjouis avec vous de ce qu'on trouve plaisir à la vérité, bien qu'elle s'exprime sans grand savoir et en bégayant. » La dispute de Leipzig amena Luther à rompre les derniers liens qui le rattachaient encore à l'Église romaine. Jusqu'ici, il avait toujours souhaité opérer une réforme au sein même de l'Église. Il en comprit l'absolue impossibilité. Sortez du milieu d'elle, mon peuple, et sauvez chacun son âme de l'ardeur de la colère de l'Éternel. Jérémie 51, verset 45. Eck lui révéla que la suprématie que Rome prétend exercer tire son origine de l'ambition d'un parti et de la crédulité ignorante d'un autre. Apprenez par mon exemple, écrivit Luther, combien ces choses malaisées de désapprendre les erreurs qui courent dans le monde entier et qui, par la suite d'une longue accoutumance, nous sont devenues une seconde nature. Voici 7 ans que je lis les Saintes Écritures et que je les expose avec zèle à tel point que je les sais presque par cœur. Je possédais aussi les prémices de la connaissance et de la foi du Seigneur Jésus-Christ. Cela signifie que je savais que nous sommes justifiés et sauvés, non par nos œuvres, mais par la foi en Christ. J'ai même soutenu publiquement que ce n'est point par droit divin que le pape prétend à la suprématie de l'Église chrétienne. Et cependant, je n'avais pas vu la conclusion de toute mon attitude, à savoir la nécessité catégorique et indubitable de proclamer que la papauté est du diable. Ce qui n'est pas de Dieu est du diable. Alors, j'ai mis 3 applications. Soyons reconnaissants au Seigneur d'avoir providentiellement préparé le terrain à l'arrivée de la réforme par des hommes tels que Wycliffe, Jean Hus, Jérôme de Prague et d'autres. Louons le Seigneur de les avoir soutenus dans leur lutte héroïque pour la promotion de la vérité, parfois même au prix de leur vie. 2e application, apprécions le rôle essentiel des Saintes Écritures dans l'arrivée de la réforme. Voyons également que les ennemis de l'Évangile évitent à tout prix de les utiliser. 3e, louons le Seigneur d'avoir donné un courage et une énergie si puissantes à Martin Luther. Remercions également Dieu d'avoir protégé Luther contre les intentions malveillantes de ses ennemis. Que notre grand Dieu soit béni, loué et adoré à tout jamais pour sa glorieuse souveraineté et sa grâce pour la protection et la promotion de la vérité. Amen.
Amen.